Europe 1.
Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. Le 22 novembre 2011, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, mourait à 85 ans dans une petite ville du Wisconsin aux États-Unis, Svetlana Allilouyeva, fille unique de Staline. Svetlana avait passé sa vie dans une perpétuelle errance entre Russie, États-Unis et Angleterre. Elle avait la bougeotte, semblait ne jamais pouvoir être heureuse nulle part et finissait toujours, où qu'elle soit, par ressentir le violent besoin de partir, de s'évader. Enfant, Svetlana avait été la chouchoute de Staline. Pour celle qu'il appelait son petit moineau, le dictateur était un père affectueux. Mais peut-on sortir indemne des bras d'un père hyper-possessif qui, tandis qu'il vous fait sauter sur ses genoux, martyrise son propre peuple? Pour le savoir, suivez-moi dans l'Union soviétique des années 30 pour un épisode en deux parties à la rencontre de Svetlana Allilouyeva, l'enfant chéri de Joseph Staline. Première partie, la petite princesse du Kremlin. Ils n'ont même pas pris la peine de s'annoncer. D'un puissant coup de botte, un milicien entouré de deux soldats vient de défoncer la porte de la maison. La famille de paysans qui habite ici est attablée autour d'un bortch, une pauvre soupe aux choux.
« Où est votre réserve de blé? Donnez-la nous immédiatement. »
« Mais, camarades, et nous, de quoi nous nourrirons-nous » Inutile d'attendre une réponse. « Ce sont les règles de la collectivisation, voilà tout. Tous les paysans riches, les koulaks, doivent donner tout ce qu'ils ont, et leurs récoltes seront réparties entre ceux qui n'ont rien. » Le chef de famille se lève. Il sait qu'il doit obéir. Avant-hier, son voisin a refusé d'obtempérer, il a été abattu d'une balle dans la nuque. Pourtant, il n'était pas bien riche. Mais ici en Ukraine, tous ceux qui possèdent un jardin et un cheval sont désormais considérés comme paysans riches. Les trois miliciens chargent les sacs de blé sur une charrette. Avant de partir, l'un d'entre eux se dirige vers le poêle qui est au milieu de la pièce et d'un coup de crosse de fusil, casse le conduit d'alimentation. Ici, cet hiver, on ne mourra pas seulement de faim, on mourra aussi de froid. Et de fait, l'hiver 1930 conjugue toutes les tragédies. Non seulement il fait froid, très froid, jusqu'à moins 50, mais malheur à ceux qui sont désignés comme ennemis du peuple. Les miliciens sont chargés d'en débarrasser l'Union soviétique. 2 millions de koulaks, c'est-à-dire de paysans, sont déportés. Le quart de la ville de Saint-Pétersbourg est arrêté. Des milliers de personnes sont fusillées. Au même moment, près de Moscou, dans une coquette maison de pierre rouge, la petite Svetlana, 4 ans, joue avec la poupée de porcelaine offerte par son papa. Née le 28 février 1926 à Moscou, Svetlana est une enfant irrésistible, joliment potelée, les cheveux roux, le front couvert de taches de rousseur. Autour d'elle, serviteurs et gouvernantes s'affairent pour lui être agréables. Dehors, des gardes se relaient pour les rondes nécessaires à la protection de la famille qui vit ici. Dans l'innocence de son âge, Svetlana ignore qu'elle est la fille du maître absolu de la Russie soviétique, Joseph Djoukachvili, dit Staline. Dans cette maison qui est l'une des multiples résidences secondaires de Staline, sont venus se reposer du tumulte de Moscou les grands-parents de Svetlana, ses tantes, ses oncles, son frère et son demi-frère. Son père aime rassembler toute la famille ici et avoir tout son petit monde sous la main tandis qu'il travaille seul dans une pièce meublée simplement d'un canapé et d'un téléphone. Parfois, il descend au rez-de-chaussée et, prenant sa fille dans ses bras, l'emmène se promener dans l'immense jardin qui entoure la maison. Il couvre de baisers celle qu'il surnomme tendrement son petit moineau. Assise sur son avant-bras, elle lui tire les moustaches et grimace en sentant l'odeur de tabac dont elles sont imprégnées. Svetlana est l'enfant chéri de Staline, l'enfant choyé, aimé jusqu'à l'idolâtrie. Il fait en sorte qu'elle ne manque de rien, ni de jouets, ni de poupées, ni d'attention. Entouré d'une nounou et d'une gouvernante qui veille chaque seconde sur ses occupations, sa toilette et ses repas, elle vit dans un monde enchanté, ignorante des réalités extérieures. Si Svetlana est proche de son père, il n'en est pas de même avec sa mère. Nadia est une femme certes attentive et juste, mais elle se montre d'une grande froideur. Pas un mot tendre, pas une caresse. Quand elle écrit à sa fille, c'est toujours pour lui faire la leçon.
« Bonjour, petite Svetlana. Lorsque ta maman est partie, sa petite fille lui avait promis beaucoup, beaucoup de choses, mais elle n'a tenu compte que d'un petit nombre de ses promesses. N'oublie pas de me répondre sur la manière dont tu as décidé de te conduire désormais. Sérieusement ou autrement, réfléchis comme il faut. Ma petite fille est déjà grande et sait réfléchir. Ta maman. »
Cette lettre, envoyée à une petite fille de 4 ans et demi, révèle le tempérament de sa mère plus que toute description. Sur les photos d'elle, on découvre une femme au visage austère, aux grosses joues de caucasienne, visage sans grande beauté, à peine animé par un sourire de circonstance. Au dire de Svetlana, qui s'en ouvrira dans ses mémoires, jamais sa mère ne l'a prise dans ses bras. Mais c'est une femme fidèle à son mari, fidèle au Parti communiste, dont elle suit toutes les directives avec soin, et fidèle à ses devoirs de mère. Sa sévérité semble avoir été une marque de conduite qu'elle s'est imposée conformément à sa foi bolchévique. Sa fille doit être élevée comme une bonne communiste. Nadia est si scrupuleuse dans l'observation des règles du parti qu'elle ne prend jamais la voiture de fonction qui lui est attribuée pour aller en ville. Elle prend les transports en commun. Elle se coiffe seule, s'habille très simplement, mange sobrement, parle peu. Elle voue à Staline un amour absolu. Svetlana, noyée de bonheur dans la tour d'ivoire, le monde enchanté que Staline a construit pour elle, ne sait pas que partout ailleurs en Russie, la faim, le froid, la violence font des ravages. À Leningrad, il n'est pas rare de trouver des cadavres dans les rues. À quelques centaines de kilomètres de Moscou, les habitants des villages isolés voient passer régulièrement de longs convois de prisonniers qui partent pour la Sibérie. Parmi les amis de son père qui viennent lui rendre visite, il en est un qu'elle déteste particulièrement, Beria. Cet homme, elle ne sait pourquoi, lui inspire un dégoût irrépressible. Pourtant, son père a l'air de l'aimer et de l'estimer, puisqu'il en a fait son bras droit. Beria est un petit monsieur, presque chauve, au visage lisse, sans expression, le nez chaussé de lorgnon. Quand il vient, Svetlana a le sentiment que son père n'est plus le même. Les deux hommes s'entretiennent longuement. Staline écoute attentivement. Svetlana, à la dérobée, écoute la conversation sans toutefois y rien comprendre. Mais elle a le sentiment diffus que son père écoute les conseils de cet affreux bonhomme dont les lèvres charnues s'agitent mollement et soufflent tout bas des choses horribles. Chaque jour qui passe, la mère de Svetlana semble plus triste, plus mutique, plus renfermée. Elle, qui ne parlait déjà pas beaucoup, s'isole à présent de longues heures. Certains soirs, Svetlana surprend de violentes disputes entre ses parents. Elle voit sa mère pleurer. Elle entend les violentes insultes proférées par son père contre sa maman.
« Souka, chienne !»
Que se passe-t-il ? Le 8 novembre 1932, à l'occasion du 15e anniversaire de la Révolution d'octobre, Staline organise un grand banquet au Kremlin. Pour fêter l'événement, toute la famille a été rapatriée à Moscou. Les membres du gouvernement sont également réunis. On discute bruyamment, on rit, on boit. Seule Nadia reste silencieuse. Assise en face de son mari, elle garde la tête baissée. Elle paraît songeuse. Soudain, Staline lui lance
« Nous, ch'toti, n'est pioche, et toi, tu ne bois pas ?»
Ch'toti, une manière bien brutale de s'adresser à quelqu'un. Dans la rue, ça pourrait justifier un coup de poing dans la figure. Nadia se lève livide. « C'est comme ça que tu parles à ta femme ? Elle bouscule sa chaise, traverse la salle d'un pas rapide, claque la porte. Svetlana, au moment de l'incident, dort tranquillement. C'est à peine si elle a entendu sa mère revenir tard dans la nuit. Elle ignore que, pour se calmer, celle-ci vient de faire 3 fois le tour du Kremlin à pied, dans la pluie et le vent, accompagnée de sa femme de chambre. Puis elle est rentrée et s'est enfermée dans sa chambre. Elle sait que Staline ne viendra pas l'y rejoindre. En temps normal, il dort dans une pièce à part sur un canapé-lit. La nuit passe. Le lendemain, la gouvernante vient comme d'habitude apporter le petit déjeuner à Nadia. Elle ouvre la porte, qui n'était pas fermée à clé. Elle pousse un cri. À terre, baignant dans son sang, Nadia gît inanimée. À côté d'elle, un petit pistolet. Toute la maisonnée est mise au courant, sauf Svetlana, qu'on emmène au dehors. On la calme, on la rassure. « Ne t'inquiète pas, tout va bien. » Staline était en train de dormir, il est réveillé. Il arrive alors dans la chambre de sa femme, il est livide. Le médecin dépêché sur place ne peut que constater le décès de Nadia. Elle s'est tiré une balle dans le cœur. Elle a dû mourir sur le coup. Évidemment, Svetlana ne pourrait pas comprendre la situation. On lui dit que sa maman est partie. Elle se calme rapidement, assise sur les genoux de son grand-père. Dans la famille, c'est la consternation. Comment une femme d'un tel caractère a-t-elle pu faire une chose pareille? À mots couverts, on évoque un état dépressif. Les disputes avec Staline étaient fréquentes. Nadia évoquait parfois sa grossièreté, sa dureté avec elle. Avant de mourir, elle lui a laissé une lettre qui va achever de le sidérer. Personne ne l'a lue. Svetlana, dans ses souvenirs, saura seulement que c'était une longue suite de reproches. Ce devait sans doute être pire que cela. Elle évoquera des propos terrifiants. Sur les photos d'archives, les proches présents à l'enterrement de Nadia affichent un visage où se lit la tristesse, bien sûr, mais aussi une sorte de désolation. Ce jour-là, Staline, l'air absent, s'approche du cercueil. Puis soudain, d'un geste brusque, il le repousse de ses deux mains, tourne les talons et s'en va. À partir de ce jour, la petite Svetlana voit son père s'enfermer dans un silence lugubre. Elle l'entend parfois s'emporter, seule, jurant et frappant le sol du talon. « Pourquoi m'a-t-elle fait ça? À moi ?» Et sans respect pour sa défunte femme, il profère les pires insultes. Svetlana a maintenant 6 ans, l'âge d'aller à l'école. À partir de ce jour, elle commence à comprendre qu'elle n'est pas une enfant comme les autres. Elle a un garde du corps qui la suit de loin et fouille son cartable quand elle rentre. Et puis, jamais on ne la laisse seule une minute. Mais tout cela pourquoi? Elle ne saurait le dire. À la maison, Staline se montre néanmoins toujours tendre avec elle. Mais son attitude envers la famille de sa femme, hébergée avec lui au Kremlin, change peu à peu. Sans doute, sous l'influence de Beria, il a acquis la certitude que Nadia n'a pu mettre fin à ses jours volontairement. On l'y a aidé, on lui a soufflé des horreurs au sujet de son mari. Qui cela peut-il bien être, sinon les proches mêmes de son épouse, ceux qu'elle côtoyait chaque jour dans l'immense domaine du Kremlin? Peut-être a-t-elle pris ombrage le jour où Vassia, le fils que Staline a eu avec sa première femme, a tenté de se suicider. Nadia aimait beaucoup ce garçon, raffiné et délicat, qui était tout l'inverse de son père. En apprenant sa tentative de suicide, Staline, ricanant, avait lancé
« L'abruti, il s'est loupé !»
Nadia en avait été atterrée. Le temps passe et la petite Svetlana voit disparaître un à un tous ses oncles, ses tantes, ses cousins, puis ses grands-parents maternels. Elle ignore que sur décision de Staline, ils ont été déportés ou fusillés. La raison? Beria est un as pour trouver de quoi accuser un innocent de tout et n'importe quoi. Une simple visite en Occident avant la Révolution est suffisante pour envoyer quelqu'un 10 ans en Sibérie pour collusion avec l'ennemi. Staline, si l'on en croit sa fille, a une confiance aveugle en Beria. Si Beria trouve des preuves pour accuser un homme, y compris son propre fils, Staline le fera déporter sans broncher. Pourtant, ces tragiques événements n'entachent pas la complicité de Staline avec Svetlana. Lorsqu'elle se trouve dans la maison de campagne, ils s'échangent des mots tendres sous forme d'un étrange rituel venant d'un père avec sa fille. Sous le surnom de Zetanka, elle envoie des billets à celui qui est alors premier secrétaire du parti.
« Au camarade Staline, secrétaire numéro 1, ordre numéro 4, je t'ordonne de m'emmener avec toi. Signé Zetanka, la patronne. »
Réponse de Staline.
« Signature du secrétaire numéro 1, je me soumets. »
Ces billets régulièrement échangés sont tous du même acabit. Staline répond invariablement par les formules consacrées.
« J'obéis » ou « exécution ».
Quant à Svetlana, elle se fait appeler « ta petite patronne ». À ses yeux, son père est un dieu. Sans doute a-t-elle remarqué que tous au Kremlin le craignent. Elle n'y prête guère attention. La fin de l'enfance approche pour la fille de l'homme le plus puissant de Russie. Nous sommes en 1937, elle a maintenant 11 ans. Une vague de terreur s'apprête à frapper le pays. Quelle adolescente sera-t-elle? Et surtout, quel adulte peut-elle bien devenir dans l'ombre d'un père aussi possessif? C'est ce que je vous propose de découvrir dans la seconde partie de ce récit consacré à Svetlana Halilouyeva, la fille unique de Staline.